Radio Kapi. Tous les protagonistes engagés au front dans le Nord Kivu sont priés de se retirer et les chefs d'état-major des armées des pays membres sont convoqués dans un plus bref délai dans une semaine pour définir le chronogramme du retrait des groupes armés des rebelles M23 dans la partie est de la RDC. C'est au moins une des résolutions du sommet de Bujumbura qui s'est tenu au Burundi hier samedi et qui ouvre cette édition de journal sur Radio Okapi. Autre nouvelle d'actualité, c'est ce regain d'insécurité ces derniers jours dans le Congo central, précisément dans la cité côtière de Mwanda, dénoncée par les amis de Mwanda. C'est presque chaque nuit que sont enregistrés des cas de vol armé. Un reportage à suivre dans ce journal. Dominique Kasimba, président provincial de la coopérative des cultivateurs de cacao et du conseil interprovincial pour la promotion de l'agriculture dans la Tchopo, est notre invité. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole dans ce journal. C'est par rapport au plaidoyer pour booster la production du cacao dans cette partie du pays. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Les travaux du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC se sont clôturés samedi à Bujumbura au Burundi. Un communiqué final a été lu en anglais et en kiswahili par le secrétaire général de l'EAC, le Kenyan Peter Matuki. Les chefs d'État de l'EAC recommandent la cessation des hostilités immédiates entre les belligérants sur toutes les lignes de front à l'est de la RDC et la poursuite du dialogue. 6 chefs d'État, dont Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, William Samuel Ruto du Kenya, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Madame Samia Hassan de la Tanzanie, ainsi qu'un délégué du président sud-soudanais Salva Kiir, ont pris part à ces travaux avec leurs experts sous la facilitation du président en exercice de l'EAC et chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye. Fiston Goma revient sur les grandes lignes de ce sommet.
Tous les protagonistes engagés au front sont priés de se retirer et les chefs d'état-major des armées de pays membres de l'EAC sont convoqués dans un délai d'une semaine. Ils devront fixer les timelines du retrait des groupes armés rebelles et informer les chefs d'état sur les modalités du déploiement des forces de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Ce processus sera accompagné par le dialogue de tous les groupes armés confondus. Le président en exercice de l'EAC, Evariste Ndayishimiye, dénoncera des cas de violation ou du non-respect de ses recommandations du 20e sommet extraordinaire. Selon les communiqués, les mesures seront prises ensemble avec tous les chefs d'État contre les parties prenantes qui violeront ces directives. Les chefs d'État présents aux travaux de Bujumbura recommandent au Soudan du Sud, à l'Ouganda et au Burundi de poursuivre avec la contribution de leurs troupes à l'est de la RDC et demandent au FRDC de faciliter ses déploiements sur le terrain. Le 20e sommet extraordinaire a permis aux deux chefs d'État, Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, d'échanger en face pendant plus de 3 heures sous la facilitation des présidents burundais et kenyans. Yoweri Museveni de l'Ouganda et Samia Hassan ont quitté la salle peu avant le communiqué final. Avant leur entrée dans la salle, chaque chef d'État a laissé un message sur un livre d'or de la présidence du Burundi, signalant que ces assises ont aussi permis au président Paul Kagame de fouler de nouveau 11 ans après le sol burundais. Un geste qui, selon certains Burundais contactés ici sur place, serait une nouvelle avancée dans la coopération bilatérale entre les Rwanda et les Burundi. Depuis le palais présidentiel de Bujumbura, Fiston Ngoma Mayaba, la Radio Okapi.
Dans le Nord Kivu, 24 heures hier après la chute de la localité d'Ekiro-Liroué, environ 50 km au sud-est de Goma, dans le groupement des Bachalika-Hembe, territoire de Masisi, les habitants ont quitté massivement leurs habitations. Ils se sont déplacés sur plusieurs axes routiers reliant ces centres de forte concentration démographique du chef-lieu du territoire. Les sources concordantes dans le territoire de Masisi précisent que ces populations fuient l'avancée des rebelles et redoutent surtout les actes de représailles commis par les combattants du M23. Information confirmée par la société civile locale. Cette situation aggrave la situation humanitaire déjà précaire dans les zones d'accueil de ces déplacés. Télésphore Mitondeke explique au micro de Gabriel Wamenya.
Les mouvements sont vraiment de tous les sens et de toutes directions. C'est parce qu'il y a des populations qui se déplacent. Les mêmes, les endroits qui accueillent les déplacés, il y en a aussi certains habitants locaux qui se déplacent pour d'autres directions. Donc voilà un peu comment se présente la situation actuellement en territoire de Masisi. Les axes principaux sont l'axe l'axe Mueso Binga, l'axe Nyabiondo, Mukombo, Massissi Centre, jusqu'à Sake, sans citer les autres mouvements de déplacés qui sont dans la localité de Mukombo, en groupement Bachali Kaembe, principalement à Karanga et dans les autres agglomérations environnantes là-bas. Donc voilà un peu les axes en tout cas majeurs qui constituent les épicentres ayant accueilli les milliers de familles déplacées. Bourma aussi qui ne cesse d'accueillir d'ailleurs des déplacés venant du territoire de Masisi.
Actualité dans la province de l'Ituri. 28 rebelles des ADF ont été neutralisés, d'autres capturés et plus de 80 otages libérés pendant les opérations militaires des FRDC depuis décembre contre ce groupe armé dans le territoire d'Irumu sur l'axe Komanda-Luna. Ce bilan a été publié ce samedi à Bunia par le porte-parole de l'armée en Ituri au cours d'un point de presse. Selon la société civile du territoire d'Irumu, les ADF ont intensifié les attaques contre les civils depuis une semaine dans la région. Cette structure demande à l'armée de poursuivre les opérations dans la forêt pour démanteler ce groupe armé. Deuxième titre de ce journal. Dans l'ouest du pays, les habitants de la cité côtière de Mwanda au Congo central dénoncent le regain d'insécurité ces derniers jours dans leur entité. Selon l'ASBL, les amis de Mwanda, c'est presque chaque nuit que sont enregistrés des cas de vol à main armée. Deux fois, ces attaques se soldent par des crimes et autres viols malgré les deux bases militaires qui s'y trouvent. Le président de l'ASBL, les amis de Mwanda, Roger Vango, interpelle les autorités tant au niveau local, provincial que national pour mettre fin à cette insécurité. Le point avec Nana Plurich Mambou.
À en croire Roger Vangou, président de l'ASBL les amis de Mwanda, il ne se passe plus une nuit sans déplorer des cas de criminalité dans la cité de Mwanda et ses environs. Les derniers cas en date est celui de la nuit de vendredi à ce samedi au quartier Malamba Bendo. Plusieurs maisons ont été visitées par des criminels armés. Dans chacune des maisons, c'est hors la loi ont ravi des téléphones portables et d'autres biens de valeur. Cette même nuit au village Mapoutou vers la route Sozir, une autre bande de ces malfrats s'est introduite dans un domicile. Hormis l'argent qu'ils ont volé, ces bandits ont aussi violé la femme du propriétaire pendant que son mari et leur agent de sécurité étaient ligotés. Roger Vangou de l'ASBL, les amis de Mwanda, interpelle les autorités à tous les niveaux pour qu'une solution soit trouvée.
C'est maintenant presque chaque nuit qu'on déplore les cas d'insécurité à Mwanda. C'est ici le lieu d'interpeller les autorités qui nous dirigent. Ils doivent chercher à vraiment nous sécuriser parce que ça ne va pas. Maintenant, on est en train de se demander à qui le prochain tour. À un moment donné, on pensait que c'était des cambistes et des cibles. Maintenant, ils entrent partout.
Signalons que c'est le jeudi 2 février qu'une énième victime de ces criminels a été mise en terre. Âgé de 25 ans, ce jeune homme a été fusillé devant sa maison située au quartier Océan, vers la station de la SNEL Mwanda. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Nous parlons processus électoral. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle lancée le 25 janvier se déroule effectivement en Afrique du Sud. C'est l'un des 5 pays choisis par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour enrôler les Congolais de la diaspora. C'est le constat fait par notre reporter Grace Hamzati, envoyé spécial de Radio Okapi à Pretoria, capitale sud-africaine où se déroule cette opération. Il nous en dit plus dans ce reportage.
L'unique centre d'enrôlement des Congolais vivant en Afrique du Sud est installé à l'ambassade de la RDC, située sur l'avenue Francis Barthes au centre-ville de Pretoria. Ce samedi, nous y avons trouvé l'équipe de la CENI conduite par le conseiller principal du rapporteur, le professeur Ferdinand Kapanga Mutombo, ainsi que quelques requérants de la carte d'électeur qui nous ont affirmé d'être venus des différentes villes, notamment Johannesburg, Cape Town et Durban. 4 machines d'enrôlement, dont 2 qui sont opérationnelles et 2 autres de réserve, y ont été déployées. À l'entrée de l'ambassade, une banderole indiquant tous les critères d'éligibilité à l'enrôlement est mise en place à l'intention des Congolais. Selon le professeur Ferdinand Kapanga, depuis le 25 janvier jusqu'à 6 jours, cette opération se déroule normalement. Il dit avoir rencontré les représentants des différentes couches de la population congolaise vivant en Afrique du Sud pour les sensibiliser sur cette opération. De leur côté, les électeurs que nous avons interrogés se sont dit satisfaits d'avoir rempli ses devoirs civiques. Jusque-là, cette opération se déroule en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud que nous avons trouvé également sur place. De Pretoria, grâce Hamzati Masanzi, Radio Kapi.
La nouvelle société civile congolaise sensibilise les électeurs à se faire enrôler afin de voter utile. Elle a organisé une matinée dite citoyenne et électorale hier samedi au centre Bondeko de Kinshasa pour faire comprendre à des milliers d'électeurs réunis l'importance de la carte d'électeur et de la qualité des futurs élus. Jurance Chombela, président de la nouvelle société civile, explique le bien fondé de cette campagne d'éducation civique. Il est au micro de Jeff Ngoy.
En cette période d'identification d'enrôlement des électeurs, celui qui a l'information a le pouvoir. Nous avons pensé que la CENI n'a pas assez très sensibilisé. On peut apporter en tant que citoyen de la République le peu qu'on puisse avoir pour amplifier la sensibilisation au niveau de la population, de comprendre dans quelles conditions on peut obtenir sa carte d'électeur et quelle est l'importance de cette carte d'électeur quand on l'aura et comment on peut exercer son pouvoir une fois on a sa carte d'électeur. Parce que nous estimons qu'aux élections de cette année, le 20 décembre, nous devons avoir des élus de bonne qualité. Et pour avoir des élus de bonne qualité, on a besoin des électeurs de bonne qualité. D'où il faut travailler sur le corps électoral, lui donner l'information qu'il faut et à quel moment il peut prendre la décision de décider de faire le choix. Et que doit être un choix qui doit aller dans le sens de l'intérêt supérieur de la population.
Privilégier la cohésion nationale pour faire face à l'ennemi, le M23, enrôlez-vous massivement et entretenez des rapports non conflictuels avec vos collègues jeunes des fédérations des partis de l'Union sacrée à laquelle appartient le FPCN. C'est à travers ces recommandations parmi tant d'autres que l'initiateur du parti politique Front pour un Congo Nouveau FPCN, Claude Nyamugabo, a installé hier la coordination nationale de la Ligue des jeunes de son parti ainsi que des quatre fédérations de Kinshasa. À tous, il leur a demandé d'apporter toute leur ingéniosité pour la réalisation des objectifs fixés par le parti en faveur des jeunes Congolais dans le cadre de l'instruction, la formation et l'emploi. On écoute Claude Nyamugabo, initiateur du parti politique FPCN au micro de Radio Okapi.
Aujourd'hui, nous avons installé la coordination nationale de la Ligue des jeunes avec comme message la cohésion en ce moment précis où notre pays va se rendre aux élections en décembre et surtout en ce moment où notre pays est victime d'agression. Le président de la République a appelé tout le monde à la cohésion nationale pour qu'on boute dehors l'ennemi de notre peuple. Et pour cela, nous devons faire appel à une grande force, c'est la jeunesse de notre pays. Parce que pour le Front, pour un Congo nouveau, la jeunesse, c'est déjà le Congo d'aujourd'hui. Et qui a la jeunesse, a la force nécessaire pour son développement et pour sa défense. Nous avons également appelé notre jeunesse à s'enrôler massivement parce que cette année, nous voulons que notre parti ait des députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs. Et surtout, je voudrais répéter ici que pour le Front pour un Congo nouveau, le candidat aux élections, à l'élection présidentielle prochaine, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour lui donner un deuxième mandat, nous comptons sur notre jeunesse à travers les 26 provinces.
Restons à Kinshasa où les magistrats réhabilités le 30 juillet 2022 n'ont toujours pas été payés jusqu'à ce jour. Ces derniers, regroupés au sein du syndicat des magistrats pour la justice, disent vivre dans des conditions très difficiles avec leur famille. Dans un mémorandum qu'ils ont adressé hier vendredi à l'attention du ministre du Budget, ils lui demandent de s'impliquer pour décanter la situation de leur paye. On écoute un extrait de leur déclaration lu par le juge de paix Rutaha Warutaha, membre effectif du syndicat des magistrats pour la justice.
Les magistrats réhabilités constatent avec désolation le blocage du paiement de leur salaire, et ce en dépit des efforts consentis par les autorités du Conseil supérieur de la magistrature. Par conséquent, invite son excellence Monsieur le ministre du Budget, de s'impliquer personnellement en vue de décanter cette situation qui n'a que trop duré et sape les actions du magistrat suprême, son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Dans la province de la Lomami, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la rougeole dans la zone de santé de Mulumba tend vers la fin. Débutée cette semaine, cette campagne a pour objectif de vacciner plus de 74 000 enfants dont l'âge varie entre 10 mois et 9 ans. C'est l'ONG internationale MSF qui a appuyé financièrement cette activité qui devra au total toucher 130 000 enfants. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est vers la fin de l'an 2022 que la zone de santé de Mulumba a été secouée par la rougeole. D'après Dr René Lumbala, la zone de santé de Mulumba a notifié du 2 au 29 janvier plus de 3400 cas de rougeole, dont 39 décès, particulièrement les enfants de moins de 5 ans.
On a eu beaucoup de cas. on était débordés. Au début, nous, on a fait un peu une petite riposte selon les moyens.
L'ONG internationale Médecins sans frontières organise depuis le 30 janvier à Bakwa-Mulumba plusieurs activités dans le but de freiner la propagation de cette épidémie. Deux campagnes de vaccination ont été organisées. La première phase, qui s'est tenue du 18 au 24 janvier, a ciblé près de 76 000 enfants. La deuxième phase, qui est en cours, concerne près de 74 000 enfants. Selon le responsable de l'intervention MSF dans la zone, une prise en charge gratuite des malades est aussi offerte à l'hôpital de Bakwa-Mulumba. Annie confirme la prise en charge gratuite de ses enfants par MSF.
Je viens du village de Luanga, à 40 km d'ici. J'ai amené mes trois enfants tous atteints de la rougeole pour qu'ils soient traités. Je me suis dit que les enfants font la rougeole à partir de l'éruption cutanée, la rougeole buccale ainsi que oculaire.
Malgré les efforts fournis, MSF affirme être confronté aux difficultés liées à l'acheminement de médicaments et équipements médicaux suite à l'état de la route. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le pape François a cherché samedi à consoler le peuple du Soudan du Sud, encourageant les prêtres et les religieuses à servir leurs ouailles en les accompagnant. Après les autorités et la société civile la veille, le pape François a rencontré le personnel de l'église, puis des Sud-Soudanais qui ont été contraints de quitter leur foyer en raison des combats, des inondations et d'autres crises. Dans son discours d'arrivée vendredi, le pape a évoqué le sort des femmes et a demandé qu'elles soient respectées, protégées et promues. Alors que des manifestations contre la France ont régulièrement lieu au Burkina depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre, le capitaine Traoré a affirmé que son souhait de voir partir les forces spéciales françaises de Ouagadougou n'avait pas d'incidence sur les relations diplomatiques avec Paris. Selon lui, il y a simplement eu rupture à la demande du Burkina d'un accord militaire sur la présence des forces spéciales françaises à Ouagadougou. C'est juste un processus qui a été enclenché et ça n'a rien à voir avec la diplomatie.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, la coopérative des agriculteurs des cacao sollicite l'intervention du gouvernement, qu'il soit provincial ou central, pour booster sa production actuellement faible par rapport à la demande des grands acheteurs. Cette production est évaluée à 300 tonnes par an en 2021-2022, alors que la demande est estimée à 300 tonnes par semaine. Pour parler de cette faible production du cacao et des moyens pour remédier à cet état des choses, nous recevons comme invité Dominique Kasimba, président provincial de la coopérative des cultivateurs de cacao et du conseil interprofessionnel pour la promotion de l'agriculture dans la Tchopo. Il s'entretient avec Jacques Mkonkole.
Dominique Kasimba, bonjour.
Bonjour.
Comment pouvez-vous expliquer la faible production du cacao par votre coopérative, qui d'ailleurs réunit plus de 600 membres?
Merci beaucoup pour la question. D'abord, le cacao, c'est une culture pérenne. C'est une culture pérenne qui demande du temps. Vu ce que la Tchopo a connu dans l'histoire des guerres, toutes ces guerres ont influencé négativement la mentalité de la population de la Tchopo, parce que personne n'est plus sûr du lendemain. On veut vivre ici et maintenant. Et donc ici, on appelle le système Pwebil. Bukalelo, Lambalelo, Lialelo. Avec des cultures pérennes comme le cacao, cela ne marche pas. Donc il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de persévérance pour arriver à la production.
Alors, que faudra-t-il faire pour faire changer la donne?
Alors, c'est pourquoi je pense que le gouvernement congolais s'implique dans le changement des mentalités à travers l'inspection provinciale du développement rural, qui est négligée dans toutes les démarches qui sont fait ici dans l'agriculture, pendant que c'est la base. Donc il faut arriver à dialoguer avec la population, arriver à leur à faire renaître en eux encore de vertu, de patience, de la persévérance, de la ténacité, parce que le cacao paye mieux que les autres cultures, mais demande beaucoup de patience. C'est que les gens ont perdu suite à des mauvaises expériences du passé.
Pouvez-vous quantifier votre production par rapport à une certaine période?
Si nous prenons seulement l'année 2021-2022, la Tchopo a produit 300 tonnes de cacao. S'insuffisant, c'est par an. Pour toute l'année, on a eu tout de 300 tonnes. C'est absolument rien, parce que des grands acheteurs que nous avons contactés, chez qui même nous avons envoyé des échantillons de cacao de la Tchopo, qui ont beaucoup apprécié ces échantillons-là, ont besoin de 300 tonnes par semaine. Mais pendant que les acheteurs nous demandent 300 tonnes la semaine, nous nous produisons 300 tonnes l'année. Vous voyez que du coup, on devient moins intéressant pour eux, mais nous sommes en train, au niveau de notre structure, de mener des démarches pour pouvoir booster la production du cacao. Et pour cela, on a besoin vraiment que le gouvernement, tant au niveau provincial que national, puisse nous accompagner.
Quel genre d'appui concrètement avez-vous besoin?
Oui, en premier lieu, il y a un problème, une question de semences, parce qu'il faut avoir, il faut que l'INERA et Yangambi soient réellement en mesure de produire des semences, des quantités, parce qu'ils ont des très bonnes semences, parce que le matériel que nous utilisons, c'est le matériel ici du travaux de l'INERA. C'est un très bon matériel. Et c'est un matériel qui est apprécié par les chocolatiers. Donc il faut que ça soit qu'au niveau des l'INERA qu'on puisse résoudre ces problèmes-là. Le second problème, c'est l'accès aux outils aratoires, aux intrants, tout ça. Le paysan a besoin d'accéder au crédit agricole. Ces crédits-là qui peuvent leur permettre d'avoir le moyen pour lancer leur champ. Parce qu'actuellement, la population est pauvre. C'est comme un cercle vicieux. Parce que l'agriculture peut nous ramener à mettre fin à la pauvreté. Mais un pauvre ne peut pas faire l'agriculture parce qu'il faut du moyen pour faire l'agriculture. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, il faut un accès au crédit agricole. Et c'est ce que nous n'avons pas encore dans notre pays.
Ça, c'est un grand défi à relever. Est-ce qu'il y en a d'autres?
D'autres défis à relever, c'est par exemple, nous qui sommes dans la transformation, c'est le problème de l'énergie électrique. C'est un grand défi. On a la bonne volonté de faire connaître nos produits, notre marque, produits congolais. Parce que ce que nous transformons aussi, parce qu'en passant, j'ai dit qu'on transforme un peu le cacao dans la Tchopo. Et ce produit qui est transformé est déjà parti par ailleurs, aux États-Unis, en France, en Belgique. Et les consommateurs ont beaucoup apprécié. Mais le problème est que le coût de production de cette transformation-là est très élevé, tout simplement parce que nous manquons énormément d'énergie sur place ici. Ce qui fait que nous travaillons un peu à perte pour le moment, parce que nous sommes partagés entre la volonté de faire connaître le produit Made in Congo, DRC, gagner un peu de bénéfices dans ces produits-là, mais relever aussi le défi des trop de dépenses dans l'achat de diesel pour faire fonctionner l'agriculture dans notre pays, dans notre province.
Et la quantité de votre production est faible, de données. Est-ce que il vous arrive quand même à l'exporter pour la commercialisation?
Ah oui, d'abord, il faudra dire que la production de la Tchopo n'est pas encore suffisante pour exporter à partir de la Tchopo. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les cacao produits en Tchopo est exporté à partir de l'Ituri et du Nord Kivu. Parce que nous n'avons pas encore des grosses quantités où on peut faire des conteneurs directement et amener en Europe ou en Amérique ou en Asie. C'est parmi notre défi de notre coopérative, c'est d'arriver à avoir des grandes productions au niveau de la province et exporter à partir de la Tchopo. Ça, c'est une mission que nous sommes assignés. Dans les 2 ou 3 ans, il faut arriver qu'on exporte les cacao à partir de la province de la Tchopo. Pour cela, il faut qu'on continue à travailler sur la quantité des produits. Mais les produits qui sont évacués payent des taxes, ce qu'on appelle les taxes d'évacuation, qui s'élèvent actuellement à $35 par tonne pour la province. C'est une source de revenus pour la province. Si nous augmentons la production, la province aussi va augmenter sa fourchette en termes de taxes.
Et monsieur Dominique Kassimba, merci.
Merci beaucoup.
Voilà comment se referme cette édition de journal sur Radio Okapi préparée par Noëlla Luzitu, prise de son et mise en onde de Mimi Kindou, présentation de Billy Ivan Lutumba. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour l'attention que vous avez accordée à ce journal.